Hier, lors d'une frappe ciblée sur l'aéroport de Bagdad, en Irak, les États-Unis ont tué 10 personnes, dont un des hommes les plus puissants de la région, le général Qassem Soleimani, artisan de l'expansion iranienne au Moyen-Orient. L'opération ordonnée par le président Trump sonne comme une déclaration de guerre, on l'a entendu largement dans le journal, déclaration de guerre qui risque d'enflammer la région, sinon le monde. Bonjour Philippe Faure-Desfarges.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous Merci. Êtes un ancien diplomate, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Vous allez faire paraître chez Odile Jacob le 15 janvier prochain une histoire mondiale de la paix qui sonne de façon un peu étrange en ce début d'année. On y reviendra après 8h30. Parlons de ce geste de Donald Trump. Vous disiez dans le journal, les États-Unis sont piégés, mais c'est clairement un début de guerre que Trump ne veut pas. Et pourtant, Trump a agi seul, sans même l'aval du Congrès. Alors comment peut-il ne pas vouloir quelque chose, le faire tout seul, en même temps y aller sans vouloir y aller, envoyer des troupes sans... Tout semble très paradoxal et contradictoire.
C'est pas si paradoxal que ça. Premièrement, pourquoi il l'a fait tout seul? D'après la Constitution américaine, le président des États-Unis a des pouvoirs importants en matière de guerre. Donc il a utilisé au maximum ses pouvoirs, sûrement il est en intérêt de conseillers juridiques qui défendent son point. Premier point. Deuxième point, si les États-Unis veulent rester la première puissance du monde. Ce qu'ils veulent, ils doivent montrer qu'ils sont forts. Ils doivent cogner dur. Et les États-Unis sont une puissance qui cogne dur. Je vous rappelle les deux bombes atomiques en 1945. Quand ils ont le sentiment qu'il faut cogner dur, ils le font. Et donc Donald Trump devait faire quelque chose. N'oubliez pas que Donald Trump est soutenu par un électorat relativement nationaliste, même si cet électorat est plutôt sur le repli. Il devait faire quelque chose. Et là, vous voyez une situation qui est très importante, c'est la notion d'engrenage. C'est-à-dire, il y a des moments dans l'histoire où les hommes sont pris dans un engrenage. Ils font ce qu'ils ne veulent pas. En 1914, c'était ça. Et en ce moment, ce que nous vivons à propos de l'Iran et de l'Irak, c'est ça. C'est le risque d'un engrenage.
Donc, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on le dit.
Pas la première fois.
On franchit, Philippe Moreau-Defarge, des paliers supplémentaires à chaque fois. Ou bien on se fait peur, on joue à se faire peur en disant à chaque fois c'est un engrenage, l'escalade, l'embrasement pour reprendre les titres
des journaux. D'abord, on n'en sait rien. On n'en sait rien. L'histoire est toujours ouverte. Premièrement, je redemanderais plutôt votre première vision, c'est qu'on monte une sorte d'escalier et on ne redescend jamais. Il y a quand même une accumulation de choses. Et dans le cas de ce qui se passe au Moyen-Orient, quand vous avez une analyse froide du Moyen-Orient, vous voyez que tout s'accumule. Premièrement, les désordres de la région s'accroissent. La question irakienne n'a pas du tout été réglée. L'Arabie Saoudite est engagée dans une aventure militaire épouvantable au Yémen. La Syrie est en un état catastrophique. Donc, c'est une zone en incendie. Du coup, les États-Unis sont obligés de retrouver leur rôle ancien, qui est de pompier. Simplement, ils interviennent dans un Moyen-Orient totalement chaotique, alors qu'à un moment donné, ils étaient un peu le policier du Moyen-Orient. Donc, c'est le pompier, ce n'est plus le policier.
Est-ce que le fait qu'il ait agi en Irak a une incidence particulière? Il a tué ce général très important, et on va revenir sur cette figure de Soleimani, là-bas, à l'aéroport de Bagdad, et pas en Iran. Alors, est-ce que ça change quelque chose?
Le pauvre Trump, il s'est piégé. Premièrement, il a eu raison d'agir en Irak pour montrer qu'il y avait une ingérence iranienne en Irak. Donc, il fallait frapper Soleimani en Irak pour montrer que l'Iran se mêlait impunément des affaires intérieures irakiennes. Mais en même temps, il s'est piégé parce que son action porte atteinte à la souveraineté irakienne. Et ce qu'a sous-estimé Trump, peut-être pas, d'ailleurs, il n'a peut-être pas sous-estimé, mais en tous les cas, ce qu'il semble avoir sous-estimé, c'est le nationalisme irakien. Il y a une sorte de nationalisme irakien. Et c'est clair que toutes ces années de guerre de Saddam Hussein, etc., ont construit un nationalisme irakien qui est aussi bien anti-américain qu'anti-iranien. Mais aujourd'hui, il est plus anti-américain qu'anti-iranien.
Je voudrais revenir, Philippe Moreau-Defarge, sur ce que vous avez dit par rapport à sa base électorale. Oui. Il y a une raison exogène aux États-Unis, c'est-à-dire le Moyen-Orient et le rôle de pompier qu'il doit reprendre en main, dites-vous. Mais il y a effectivement la base électorale de Donald Trump. Année électorale fondamentale, puisque l'élection présidentielle aura lieu en novembre prochain. Est-ce que vous pensez que cela a un lien avec cette élection de fin d'année et peut-être même avec la procédure d'impeachment qu'il est en train de vivre, Donald Trump?
Premièrement, ça a certainement un lien avec la procédure d'impeachment. Il veut certainement bloquer la procédure. Cela dit, elle est très mal partie. Elle est très mal partie parce que c'est vrai que cette affaire ukrainienne est assez mal ficelée, donc ils auront du mal. Deuxièmement, la base électorale de Trump, elle s'en fiche du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ça ne l'intéresse pas. Donc, clairement, alors pourquoi Trump fait ça? Parce que il faut qu'il apparaisse comme le cow-boy, comme le gars fort. Si vous voulez, à nouveau, les États-Unis ne peuvent pas apparaître dans une position de faiblesse. Quand vous voyez des moments extrêmement importants, quand ils apparaissent faibles, ils se sentent mal à l'aise. Il y a un nationalisme américain qui est extrêmement fort. Et donc, quelque part, il pourra dire à ses électeurs, regardez, j'ai été fort, j'ai été ferme quand il fallait le faire. Mais est-ce que Trump se rend pleinement compte des conséquences de ses actes?
Oui, parce que pour certains, quand même, et là, c'est là qu'on en vient à la figure du général Soleimani. Oui. Ça n'est vraiment pas n'importe qui, en l'occurrence. C'est une icône dans son pays. Oui. Les termes employés, alors non seulement du côté moyen-oriental, mais aussi de ce côté de l'Occident, sont tous plus, pas forcément élogés du côté iranien, mais de ce côté-ci aussi, c'est un homme qu'on présente comme très puissant et très charismatique. Donc le fait même d'avoir ciblé cet homme n'est pas anodin.
Bien sûr que c'est pas anodin.
Mais pour montrer qu'on est fort.
Oui, mais attendez, si on suit votre raisonnement, à la limite, on ne fait rien du tout. Surtout, il ne faut pas le toucher. Il est trop sacré, trop important. Mais en même temps, si on veut casser quelque chose, il faut le frapper. Attendez, je veux dire une chose. Soleimani, il est déjà remplacé. Vous savez, ces systèmes, il y a toujours un élément de remplacement. Mais c'est vrai que Soleimani avait quelque chose d'unique. Le charisme, ça ne se remplace pas. Il avait certainement une autorité, une charisme que n'a pas le nouveau chef. Mais que le nouveau chef peut très bien acquérir. Hein. Vous savez, souvent les seconds, très effacés, quand ils montent à la première place, se métamorphosent.
Et vous disiez que c'était un geste fort.
Ah oui,
peut-être le fait même que vendredi matin, Donald Trump n'ait pas envoyé un tweet avec des mots, mais ait publié le drapeau américain, est le signe, effectivement, de renouer avec la fibre patriote de sa base électorale.
En même temps, je pense qu'on l'a retenu, on l'a dit, surtout pas de tweet incendiaire, surtout pas de tweet voleur. Notre drapeau américain, c'est relativement simple. Et vous voyez, c'est très important parce que ce que brûlent les manifestants anti-américains devant les ambassades, c'est le drapeau américain. Donc il dit, le drapeau américain, on ne peut pas y toucher. Et là, tous les Américains, enfin presque tous les Américains sont d'accord et se rallieront derrière Trump.
Philippe Moreau-Desfarges, est-ce que les réactions sont attendues? C'est-à-dire qu'on a vu la Russie de Vladimir Poutine parler de paliers hasardeux. Mmh. On a entendu Paris parler de dangereuses escalades militaires. Oui, oui. Pékin a appelé au calme et à la retenue. Mmh. Est-ce que chacun est dans son rôle?
Chacun est dans son rôle, mais chacun ne dit pas la vérité. Premièrement, je crois que la tonalité derrière le langage officiel, c'est une extrême inquiétude. Tout le monde a peur de ce dérapage parce que tout le monde est conscient, même Monsieur Poutine, même Xi Jinping, est conscient que c'est un dérapage très dangereux et qu'on peut aller vers une guerre lourde au Moyen-Orient où, à la limite, la Russie et la Chine pourraient être impliquées. Deuxièmement, je pense qu'il y a un pays, il ne le dira pas, qui se réjouit énormément, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que le grand ennemi, le grand adversaire des États-Unis, c'est la Chine de Xi Jinping. Et au fond, tout ce qui affaiblit les États-Unis sert la Chine. Et d'une certaine manière, ce qui est très important, c'est que en s'engageant, en étant contraint de s'engager au Moyen-Orient, les États-Unis dissipent leur énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je voudrais vous donner une image. Pour moi, il y a un tableau qui dit tout. C'est un tableau de Goya. Dans ce tableau de Goya qui est magnifique, on voit deux colosses qui sont en train de s'affronter. Mais deux colosses qui s'affrontent à mort. Et on le voit très bien. Et ces deux colosses, c'est bien sûr les États-Unis et la Chine. Enfin, pas pour Goya, mais on voit bien. Et puis, l'œil descend en bas du tableau. Et qu'est-ce qu'on voit? Des sables mouvants. Et les deux colosses qui s'affrontent à mort, qui vont essayer de se tuer là-bas, vont être absorbés par les sables mouvants. Mais ils n'en ont rien à faire. Ce qui compte, c'est leur combat. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, et notamment les États-Unis d'abord, sont pris dans toute une série de combats et que ça peut les amener à oublier le combat fondamental. Quel est le combat fondamental? Et là, c'est très difficile à définir. C'est aux États-Unis à le définir. Est-ce que le combat fondamental, c'est la Chine? Est-ce que le combat fondamental, c'est le changement climatique? Là, on viendra peut-être sur le sujet de mon livre, mais c'est autre chose. Voilà.
Philippe Moreau-Desfarges, il y a une question qui se pose dans ce que vous dites. Oui. C'est quand même l'obstination ou l'obsession des États-Unis. Donald Trump n'est pas le premier rapport à ça. Envers l'Iran. Pourquoi autant d'obstination et depuis vraiment longtemps, plus de 40 ans, 50 ans, sur l'Iran?
Pas parce que d'abord l'Iran était le grand partenaire des États-Unis dans les années, des années 50 jusqu'aux années 70. L'Iran du Shah était, je vous rappelle que les États-Unis de Kissinger, de Nixon et Kissinger, appelaient l'Iran le Japon du Moyen-Orient. L'Iran devait être le Japon du Moyen-Orient. Tout s'est écroulé en 1979. Et là, ce que ne peuvent pas pardonner les États-Unis, ce que ne pardonnent pas les États-Unis, c'est l'humiliation. Et l'humiliation, c'est l'affaire des otages, si vous voulez. En 1979, lorsque l'ambassade américaine est prise en otage, c'est terrible pour les États-Unis. L'humiliation, si vous voulez, quand vous êtes une grande puissance, vous ne pouvez pas pardonner l'humiliation. N'oubliez pas que les relations entre les puissants sont les mêmes choses que les relations entre les individus. La vengeance, la puissance, l'humiliation. Là, les États-Unis ont été humiliés, ils ne pardonnent pas. De même, attendez, la Chine aujourd'hui ne pardonne pas les humiliations des guerres de l'opium. Là aussi, à Hong Kong, la Chine se venge des guerres de l'opium. Et la Chine veut détruire Hong Kong, la dépendance d'Hong Kong, parce que Hong Kong, c'est le symbole de la colonisation britannique au moment des guerres de l'opium.
Vous dites que c'est une guerre imprévisible. De toute façon, on ne sait pas dans quel sable mouvant il met les pieds. On ne sait pas non plus exactement comment l'Iran va réagir. Pour l'instant, le guide suprême iranien a promis une vengeance terrible. Mais on est dans 3 jours de deuil national déclaré en Iran. Donc il n'y aura sans doute rien d'ici là. À votre avis, que peuvent faire les Iraniens?
Ils peuvent faire des tas de choses.
Attaquer Israël, l'Arabie Saoudite, les intérêts américains quelque part.
Je pense qu'ils peuvent recommencer des manifestations contre les ambassades et faire sentir
la haine. Ça, c'est pas une vengeance terrible, ça. Ça n'est pas une vengeance terrible, les manifestations. Dans ce qu'on entend, ça va plus loin.
Attendez. Mettez-vous à la place des diplomates qui sont dans le campagne de l'ambassade. Vous savez, c'est terrible l'épreuve. Attendez, les otages, ils ont vécu 2 ans prisonniers. Premièrement, autre chose, des attentats terroristes. Troisièmement, ils peuvent essayer, et ça serait très difficile, de frapper sur le territoire américain. Car, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un nationalisme iranien extrêmement fort qui concerne les Iraniens d'Iran, mais aussi les Iraniens de l'extérieur. Et on peut très bien imaginer que des Iraniens des États-Unis soient recrutés par les services secrets iraniens pour frapper.
Non, il y a mille manières de frapper. Là, ce serait l'échec de Donald Trump.
Ah oui, ce serait un échec terrible. Mais aujourd'hui, ce que veut l'Iran, si l'Iran veut se venger, c'est humilier Donald Trump, comme elle a humilié Jimmy Carter. Je vous rappelle que Jimmy Carter a tout fait pour aller libérer les otages, et les otages ont été libérés une heure après que Jimmy Carter n'était plus président des États-Unis. Donc il fallait mettre Jimmy Carter, le nez dans sa merde, lui dire, et l'Iran va recommencer ça avec Trump. Donc Trump joue très 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 gros, très gros. Il perd toute sa présidence. Mais vous savez, il y a des moments où vous êtes obligé de parier. Si vous ne pariez pas, la vie, notamment les actes guerriers, ce sont des paris très hasardeux, qui en général ratent. Si vous voulez, j'ai regardé l'histoire, on en reviendra après. Je ne connais qu'une fois où ça a réussi. En général, ça rate tout le temps. Une fois, ça a réussi. Enfin, quelques fois, ça a réussi. Mais parce que il faut faire le pari. Donc, Trump doit parier. Vous savez, comme dans le pari de Pascal.
Ce qui peut paraître d'ailleurs effectivement étonnant au moment où on dit que l'impeachment va nécessairement échouer, qu'il risque d'ailleurs de sortir plutôt victorieux de cette procédure juste avant l'élection présidentielle. Il n'aurait pas besoin d'avoir un pari perdu avec la mise dans un bourbier pareil au Moyen-Orient. Donc,
cher Carly, je vous rappelle la phrase des Romains, la roche tarpéienne serait pleine du Capitole. Et quand vous voyez les mêmes hommes, le même homme qui est au sommet du pouvoir le matin, le soir peut être jeté à terre. Je vais vous donner un autre exemple, Carlos Ghosn, qui est au sommet du pouvoir avant d'arriver à Tokyo. Une fois à Tokyo, il était à terre quand il était mis en prison.
Bon, il en est sorti, là, pour l'instant.
Il remontera pas au sommet.
Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. Il a téléphoné ensuite à son homologue turc, Erdogan. Qu'est-ce qu'on peut attendre
entre Poutine et Macron, ça a dû très bien se passer. Ils sont tous les deux inquiets et ils ont peur d'une escalade de moyens. Donc ils ont essayé de dire comment on peut calmer les choses. Avec Erdogan, c'est beaucoup plus compliqué parce que Erdogan, lui, est directement impliqué au Moyen-Orient et veut s'y impliquer. Vous savez, la Russie, on dit que la Russie a gagné en Syrie. Elle n'a pas gagné en Syrie. La Russie, pour gagner en Syrie, il faut qu'elle soit capable de reconstruire la Syrie avec un vrai État, un vrai pouvoir. Pour le moment, c'est pas le cas. La Syrie est ravagée et elle est dominée par une espèce de tyran dingue. Donc la Russie ne veut pas être piégée par la Syrie. Donc la Russie, voyant les États-Unis être piégés par l'Irak, il se dit, pour eux que ça nous arrive pas à nous. Donc il y a une très grande inquiétude. Quant à Erdogan, il joue, lui, un jeu extrêmement dangereux. Mais c'est son jeu.
Dominique Moïsi, homologue, dans Les Échos, faisait il y a quelques jours le bilan de la décennie. Oui. Et il écrivait, la décennie entrera dans l'histoire comme celle où l'Amérique a donné l'impression de se retirer progressivement du monde et de ne plus vouloir faire intervenir les États-Unis dans la poudrière du Moyen-Orient. On a passé un jour supplémentaire avec une année supplémentaire, une décennie supplémentaire. Tout est remis à plat.
Tout n'est pas remis à plat parce que malgré tout, les États-Unis vont garder cette volonté de repli. Donc tout n'est pas remis. Premièrement, ils vont garder cette volonté de repli. Et deuxièmement, n'oublie pas, le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est plus le Moyen-Orient d'il y a même d'avant-hier. C'est ça qui est terrible. Donc les États-Unis, je crois que les États-Unis vont s'engager au Moyen-Orient. Ils n'ont pas d'autre choix, mais ils savent très bien quelque part, et beaucoup d'Américains le savent, que c'est un piège terrible.
8h31, restez avec nous, de, pas Dominique Moisy, hein, Philippe Moreau Desfarge. C'est pas très loin, vous êtes amis.
Oui, c'est un très bon année, c'est un très bon année.
Donc restez avec nous pour la suite de ces matins du samedi. Merci, et vous êtes applaudi par Philippe Moreau Desfarge.
Excellent, excellente chronique. Non, d'ailleurs, je vais redire un peu ce que vous venez de dire de la dernière fois, c'est qu'on voit que la nouvelle géopolitique, cette géopolitique un peu raisonnable visant à gérer ensemble la mer de Chine, et ce que vous avez évoqué avec les réunions de l'ASEAN, et néanmoins ne fait pas disparaître la vieille géopolitique. La vieille géopolitique, ce qui est à moi est à toi, est à moi et je ne le partage pas. Et là, on voit bien qu'il y a un bras de fer extrêmement dur entre la Chine qui veut s'approprier la mer de Chine et puis les États riverains. Vous savez, j'étais au Vietnam récemment. Quand on parle de la langue de bœuf aux Vietnamiens, ils sont foudrages, ils sont foudrages. Donc, vous avez tout à fait raison. On voit cette lutte entre, je dirais, les tentatives d'organisation du système international à travers les efforts de l'ASEAN et le passé, le poids du passé, que la vieille géopolitique, la géopolitique des bras de fer, la géopolitique des rapports de force, elle est toujours là. Et la Chine veut dominer cette région. Elle veut dominer cette région. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge.
Oui, c'est ça. On n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Moreau Desfarge, qu'on a là, avec tous ces sujets, le triangle du moment, c'est-à-dire d'un côté, les États-Unis qui agissent au Moyen-Orient, de l'autre côté, la Chine qui essaye de lutter pour sa souveraineté dans les eaux territoriales maritimes à côté de l'Indonésie. Et puis, entre les deux, la guerre commerciale Chine-États-Unis, qui peut plus sans doute qu'une guerre commerciale, c'est une guerre globale. De pouvoir. Oui. Est-ce qu'on a là cette espèce de triangle de notre nouvelle décennie, puisqu'on entre dans une nouvelle décennie?
Alors, on a ce triangle-là. Premièrement, en disant que ce n'est plus une guerre commerciale, là, c'est un affrontement global. Désormais, c'est qui sera le numéro un de demain. C'est vraiment la vieille géopolitique. Deuxièmement, on voit que tout ça doit être intégré dans un contexte beaucoup plus large, qui d'ailleurs est, je m'excuse, le thème de mon livre, c'est que la mondialisation est là et que toutes ces puissances doivent tenir compte de la mondialisation. Alors, il faut définir la mondialisation, mais qu'elles doivent tenir compte de la mondialisation et que notamment aujourd'hui, il y a des défis communs à toute l'humanité qui sont au-dessus des rivalités de puissance et que ces rivalités de puissance peuvent empêcher la prise de conscience ou d'assumer ses intérêts généraux de l'humanité avec un prix colossal.
Vous pensez au changement climatique quand vous parlez des défis, notamment
au changement climatique, pollution industrielle,
migration.
Migration, exactement. Si vous voulez, je crois que le changement climatique est très réducteur. Je crois que c'est vraiment un ensemble de problèmes. Notamment, vous avez la question des migrations, c'est-à-dire la tension entre le droit à la limite de chaque individu à vivre là où il veut pour réaliser son bonheur, et puis des peuples qui veulent préserver leur territoire. Non, c'est un défi global et qui ne se réduit absolument pas au changement climatique, qui n'est qu'une dimension parmi d'autres. Pour moi, notamment, les pollutions industrielles sont très importantes. Regardez le grand problème des déchets de plastique dans le Pacifique. C'est un problème énorme, les déchets de plastique dans le Pacifique. C'est-à-dire, comment on va réduire cette masse de déchets qui s'est accumulée dans le Pacifique? Et quand on sait, attendez, qu'on ne peut plus rien protéger. Quand vous prenez les Galapagos, qui était un réservoir pour les espèces, pour ces iguanes, qui est un lieu merveilleux, les Galapagos, c'est fini. C'est fini parce que les déchets de plastique arrivent sur les Galapagos et que les malheureux iguanes mangent ces déchets de plastique. Et deuxièmement, parce que ce que vous avez évoqué dans votre chronique, c'est que les pêcheurs chinois sont d'un cynisme total et viennent pêcher au-delà des Galapagos, et que la malheureuse police équatorienne, l'armée équatorienne n'est pas capable d'empêcher ça. Non, c'est terrible. On voit, si vous voulez, cette heurte entre la vieille géopolitique, les rivalités de puissance, les rivalités territoriales, les rivalités... Et puis, l'ébauche d'une nouvelle géopolitique qui serait une administration globale de la planète.
Est-ce que ça veut dire aussi que les deux blocs qu'on a connus au siècle précédent, bloc soviétique versus bloc occidental, représenté par l'URSS, puis la Russie et les États-Unis, se détournent vers l'Asie, et que vous diriez vraiment aujourd'hui les deux blocs qui s'affrontent de la même façon, guerre froide qui peut devenir chaude, on le voit bien, c'est Chine-États-Unis, on est vraiment là-dedans.
Alors je suis d'accord, aussi bien c'est le mot de bloc, parce que les blocs c'était vraiment lié à la guerre froide, vous voyez, à l'antagonisme...
Il faut trouver d'autres mots.
Mais c'est des mots très classiques, c'est-à-dire qu'on voit une rivalité planétaire entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, les États-Unis qui sont la puissance dominante et la Chine qui veut prendre cette place. Et donc autour d'elle se créent des réseaux d'alliances extrêmement fluctuants. Prenons un exemple, les pays d'Asie ont peuvent être tentés de s'allier à la Chine. Parce que la Chine est là, c'est le colosse, mais en même temps, les pays d'Asie sont nationalistes. Quand vous demandez au Vietnam ou à l'Inde d'être soumis à la Chine, parce que la Chine, elle demande pas une alliance, elle demande une soumission. Prenons un exemple. Prenons la Russie. La Russie, en fait, est un acteur un peu de second plan. La Russie peut choisir l'alliance chinoise. Mais ce ne sera pas une alliance chinoise. ce sera une soumission de la Russie à la Chine, avec un prix probablement très lourd, qui sera que la Chine récupérera une partie de la Sibérie. Il faut que la Russie, et la Russie de Poutine le sait. Soit la Russie s'allie avec l'Europe ou l'Occident, et la Russie est devant un autre problème, c'est que, à ce moment-là, elle risque de se casser entre une partie asiatique, une partie sibérienne et la partie européenne. Et donc, la Russie, vous voyez, hésite beaucoup. Quant à l'Union européenne, comme elle n'est pas une vraie puissance, elle oscille, pour le moment, c'est la protégée des États-Unis. Elle sent que la protection américaine s'en va. Donc, elle cherche à se rapprocher de la Chine, mais elle sait que la Chine, c'est un géant extrêmement dangereux.
Vous ne promettez pas, Philippe Moreau-Desfarges, un monde extrêmement pacifique. Non. Est-ce que c'est pour cette raison que vous allez faire paraître d'ici quelques jours une histoire mondiale de la paix?
Oui, alors il faut que je dise la thèse du livre. La thèse du livre,
elle tient c'est que si elle veut survivre, l'humanité est condamnée,
oui,
dites-vous, à la paix.
Exactement.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, si vous voulez, je ne veux pas être trop long, ça tient en quatre chiffres. Je vais vous donner quatre chiffres. En 1800, nous sommes 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants. Donc, en 2 siècles, la population humaine a été multipliée par 8, ce qui est phénoménal. Alors, et j'oublie, attendez, moi je suis né en 1943, il y avait 2 milliards et demi d'êtres humains. Nous sommes en 2020, il y a 7-8 milliards d'êtres humains. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est spectaculaire. Hein. Bon, alors, c'est les
9-10 en 2050.
Deuxième chiffre, si nous considérons que le produit mondial brut en 1800 est de 100, aujourd'hui, le produit mondial brut est de l'ordre de 1500 à 1800. Ça veut dire que la population humaine a été multipliée à peu près par 7 ou 8. La capacité de l'humanité à créer de la richesse, enfin, il faudra définir le terme de richesse, a été humiliée par 10 ou 12. Donc, l'humanité s'est colossalement enrichie. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est que la richesse? C'est-à-dire la capacité des hommes à créer, à exploiter la planète, avec les conséquences négatives que l'on sait. Deuxièmement, alors, vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est très... Enfin, pour moi,
vous
l'idée...
Vous me disiez 4 chiffres. Hein.
Oui, 4 chiffres. Attends. 1 milliard d'habitants, 7-8 milliards d'habitants. 100 produits, 10,
mais entre 15 une évolution voilà, sur voilà, une centaine
chiffres,
d'années.
Hein, c'est les 4 chiffres. Voilà. Alors, deuxièmement, je vais arrêter, c'est la paix. Qu'est-ce que j'entends par la paix? D'abord, la vie, c'est la guerre. La vie, c'est la guerre. Je suis désolé, je suis un peu bizarre. C'est-à-dire, dès qu'il y a de la vie, il y a du conflit. Quand vous regardez, j'adore les documentaires animaliers. Je suis un fanatique des documentaires animaliers. C'est une lutte permanente. Qui bouffera l'autre? Enfin, c'est permanent. Bon.
C'est l'alternance entre la guerre et la paix.
Oui, parce Allez. Que les animaux ne tuent que pour manger. Nous, on tue pour nos idées. C'est pire. Alors, vous savez, on est une sale espèce. On est une sale espèce. Enfin, alors, oui, qu'est-ce que c'est que la paix? Mon idée, c'est que la paix, c'est l'établissement d'un contrat planétaire entre tous les hommes. Ça paraît fou. C'est-à-dire qu'il faut que l'humanité édifie un contrat social planétaire. C'est-à-dire l'idée de Rousseau. Mais attendez, ce que je veux dire, c'est que premièrement, ce contrat social planétaire, il existe déjà. Alors, vous me direz, mais si, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est au fond l'organisation de tout le système onusien, l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, qui sont des structures formidables. C'est cette ébauche de ce pacte social planétaire. Le problème, c'est comment on va passer d'un pacte social entre les États, ce qui est le cas de l'ONU, à un pacte social qui ira au-delà des États. Vous voyez, et on voit que l'État, par l'État français, l'État américain, ne disparaît pas, mais que l'État est irrémédiablement transformé par cette problématique du contrat social planétaire. Si on y arrive, alors, dernière chose, point, et je termine, le contrat social, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. C'est-à-dire, un pacte social planétaire, ça peut être merveilleux pour permettre aux hommes de vivre ensemble, mais ce pacte social planétaire, ça peut être aussi la création d'une gouvernance mondiale totalitaire. Ce n'est pas impossible.
Alors, vous dites que c'est un projet fou. J'ai un peu envie de vous dire, Philippe Moreau-Desfarges, c'est surtout un projet qui semble aujourd'hui, en 2020, assez irréaliste quand on voit à quel point c'est d'ailleurs l'objet, je crois, d'un livre précédent de vous, les États sont aujourd'hui dans un repli sur leur souveraineté.
Tout à fait.
Le nationalisme gagne du terrain et donc ils ne sont pas du tout dans une supra-étaticité, même si le mot n'est pas français.
Vous avez raison, mais je vais vous répondre deux choses. Je vais vous prendre deux exemples. En 1914, se produit une guerre terrible, bon, qui n'aurait pas dû avoir lieu d'ailleurs, et qui est terrible, mais bon, et malgré tout, en 1919, on essaye de bâtir la Société des Nations. 1939, le même scénario pareil, et on crée l'Organisation des Nations Unies. Donc ce que je veux dire, oui, il peut y avoir une très grande guerre, mais il faudra bâtir cela. On n'a pas d'autre choix. Il faudra bâtir ça.
D'où le terme condamné.
Voilà, condamné.
Condamné à la paix.
Voilà, condamné à la paix. On est devenu tout petit, c'est tout petit la Terre, c'est tout petit maintenant. Et c'est nous qui l'avons rendue toute petite, par nos moyens techniques. L'homme, Alors, je m'excuse, ça choque pas forcément. Je suis marxiste. Alors, j'entends ce que je m'arrive. Je crois qu'il faut d'abord regarder les infrastructures avant de regarder les structures. C'est-à-dire, qu'est-ce qui casse dans les changements techniques, économiques, sociaux, avant de regarder les structures institutionnelles. Et là, on voit que nous vivons des révolutions techniques, des révolutions démographiques qui changent totalement la problématique de la paix.
Donc, c'est... le contrat social planétaire, ça pourrait être, Philippe Moreau de Farge, votre vœu pour la décennie 2020.
Et
donc, a fortiori, pour le début
prudent,
de cette année.
Un peu prudent.
Raisonné, prudent.
Parce que ce contrat,
mais possible.
Ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Vous savez, en réfléchissant, je me suis rendu compte que maintenant, je me nourrissais beaucoup, parce qu'on n'arrête pas de se nourrir, de films de science-fiction. Et je trouve que probablement les films les plus intéressants pour réfléchir sur la géopolitique de demain, ce sont des films de science-fiction. Je vais vous donner deux exemples. Soleil vert, que vous connaissez peut-être, qui est un magnifique film, mais qui est très prophétique. Et le deuxième film, c'est Interstellar. Je sais pas si vous avez, qui est aussi, bon, Mathéo connaît visiblement ces deux films, qui sont des, et moi, je me nourris d'un côté des Fables de La Fontaine et de l'autre côté des films de science-fiction.
Et ça rappelle, l'un des livres, alors c'est pas forcément que des films, c'est des séries aussi, mais de votre collègue Dominique Moïsi qu'on citait tout à l'heure, qui a fait un livre sur la géopolitique des séries.
Absolument.
Les séries. Se nourrissant aussi des séries, montrant à quel point elles sont importantes pour la géopolitique.
Il faut se nourrir de tout. Tous les aliments sont bons.